Protégez vos biens, vos proches et votre voisinage avec l'assurance habitation de Suno Assurance qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Difficile parfois de distinguer la dépression d'autres souffrances psychiques, de faire la part des choses entre un passage à vide, un coup de déprime et une maladie qui s'installe dans la durée et atteint en profondeur l'individu et parfois son entourage et peut bouleverser ses habitudes de vie. Une maladie fréquente, à voir la proportion de la population française à qui l'on prescrit des antidépresseurs. La dépression touche davantage les femmes que les hommes et concerne la quasi-totalité des pays du monde. Certaines catégories sociales se retrouvent davantage exposées. Des situations comme la précarité, la solitude, le fait d'être atteint d'une pathologie chronique accroissent encore la vulnérabilité. Une maladie fréquente, ce qui n'empêche pas de nombreuses idées reçues la concernant de persister, ce qui complique sa prise en charge, faute parfois de diagnostic précoce. Mais une fois un nom posé sur ce malaise général, fait de fatigue, de lassitude, de culpabilité, d'insomnie, des solutions existent, des prises en charge qui peuvent s'appuyer sur des médicaments, mais aussi des thérapies et surtout un suivi régulier avec un médecin référent. Car soigner une dépression, ce n'est pas une simple question de volonté, c'est trouver le chemin adapté, le protocole qui permet de consolider étape par étape l'apaisement, la reconstruction pour retrouver confiance en soi, pour retrouver le goût de vivre. Comprendre la dépression avec vous, professeur Antoine Pellissolo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de psychiatrie, chef de service à l'hôpital Henri Mondor à Créteil et vous avez signé l'ouvrage « Dépression, s'enfermer ou s'en sortir » aux éditions Le Muscadier. Nous retrouverons tout à l'heure en ligne du Cameroun le docteur Christian Eyoum, psychiatre et chef de service à l'hôpital La Quintinie de Douala. Et un rendez-vous dans Priorité Santé tout à l'heure, dans 40 minutes, nous serons en ligne de Bukavu avec le docteur Denis Mukwege, le gynécologue de la clinique de Panzi dans l'est de la RDC, dans le Kivu. Prix Nobel de la paix depuis vendredi, récompense annoncée, consécration internationale pour sa lutte au quotidien, pour les droits des femmes victimes de viols, pour la réparation physique des victimes d'exactions, prise en charge psychologique et sociale. Un prix qu'il partage avec Nadia Mourad, cette jeune femme irakienne yézidi, ex-otage du groupe État islamique, victime elle-même de viols.
Priorité santé sur RFI.
La dépression, professeur Antoine Pellissolo, tout à l'heure j'ai dit une maladie fréquente, est-ce que c'est vrai ?
Ah oui, si on regarde les statistiques, maintenant assez consensuelles, je dirais, de par le monde, on dit entre 10 et 15% de la population qui, à un moment donné dans sa vie, heureusement c'est pas tout le temps, risque de croiser la dépression.
Alors, le grand public est familiarisé avec cette maladie, même si des fois il y a certaines confusions entre, par exemple, déprime et dépression, pas mal d'idées reçues. Comment justement expliquer que cette maladie touche autant de monde et que finalement, certaines personnes la connaissent encore très peu?
Parce que je crois vraiment le concept est compliqué à intégrer. Il y a la dépression maladie que les médecins maintenant ont bien décrit. Ça fait quand même pas très longtemps, ça fait une trentaine d'années. Je dirais que les médecins déjà entre eux sont d'accord à peu près sur ce qu'on appelle une dépression maladie. Et puis il y a d'autres formes. Le mot déprime, dépression est utilisé dans le langage courant et va décrire beaucoup d'états aussi qui correspondent pas à une vraie maladie mais qui correspondent à des difficultés transitoires ou plus durables mais qui ne sont pas du rejet de la dépression. Il est assez logique qu'on ait du mal à faire la différence entre les deux, puisque le mot est le même. Et puis surtout, pendant longtemps, on utilisait le terme de dépression pour masquer d'autres troubles, par exemple psychiques, que l'on n'osait pas non plus complètement formuler. Donc ça a créé un petit flou supplémentaire. Donc ça demande effectivement à être un petit peu rappelé, défini. Et l'essentiel, c'est aussi d'avoir des explications par son médecin, parce que très souvent, l'interlocuteur principal, c'est le médecin qui va pouvoir expliquer ce qu'est la dépression ou ce que n'est pas la dépression.
Alors justement, des idées reçues, quelles idées reçues peuvent être combattues au sujet de la dépression ?
La première, même si c'est un peu banal, mais je crois que c'est tellement vrai qu'il faut le redire, beaucoup de gens ont une vision, à cause de ces idées reçues, de l'image générale, que la dépression, il suffirait de se bouger un peu pour pouvoir la combattre. Hein. Dans le langage courant, il y a toujours cette idée-là de pouvoir, par soi-même, par sa volonté, surmonter. Alors, parce que, tout simplement, beaucoup de difficultés psychologiques, effectivement, qui ne sont pas des dépressions, demandent de l'énergie, demandent de la volonté. Mais quand on est dans une phase de dépression, on n'a plus par définition cette volonté. Donc la première idée reçue à combattre, c'est l'idée qu'il faut... la conclusion, c'est qu'il faut se faire aider quand on a une dépression vraie, au moins pour poser un diagnostic et avoir des pistes, et qu'on ne peut pas très souvent se débrouiller tout seul par soi-même.
Alors, dans votre livre, on peut lire, professeur Antoine Pellissolo, que la dépression est deux fois plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ?
On le constate vraiment partout et on ne l'explique pas complètement. Moi, je dirais que dans la dépression, il y a beaucoup de facteurs qui interagissent les uns avec les autres. Des facteurs sûrement un peu de constitution biologique, cérébrale, des choses qu'on a en nous, qu'on n'arrive pas encore bien à cibler. Et puis, il y a d'autres facteurs qui sont des facteurs psychologiques et liés au mode de vie. Et probablement que sur les deux aspects, biologique et psychologique, les femmes ont probablement des handicaps particuliers qui sont notamment par exemple sur le plan psychologique la charge de travail, comme on dit, la charge mentale, la pression sociale qui pèse sur elles, qui probablement aggrave les choses. Sur le plan plus biologique, on ne sait pas bien, ça peut être hormonal, ça peut être d'autres dimensions, mais je pense qu'on est plus aujourd'hui convaincu des facteurs sociaux qui font la différence aujourd'hui entre les hommes et les femmes que sur les facteurs plutôt de vulnérabilité biologique.
Et justement, au-delà de ce rapport de genre, est-ce qu'on peut parler de populations particulièrement vulnérables ou de situations qui, justement, accroissent cette vulnérabilité des personnes ? On pense, bien sûr, à la situation sociale, professeur Antoine Pellissolo.
Oui, parce que toutes les causes de souffrance psychologique au sens large viennent aggraver les vulnérabilités. On pourrait regarder les choses dans l'autre sens. Quand on a une vulnérabilité, on a besoin de se défendre, et on se défend avec l'énergie qu'on peut trouver par soi-même et le soutien qu'on peut trouver auprès des autres et dans sa vie quotidienne. Et quand on est en grande difficulté sociale, familiale, affective, évidemment on a moins de ressources, moins de défense. Donc ces éléments-là viennent aggraver le risque, même si le risque de la dépression peut aussi arriver, enfin peut exister chez des personnes qui n'ont pas de ces difficultés de vie. Donc il y a aussi d'autres facteurs qui sont des facteurs internes au sujet. Donc là aussi qu'on n'arrive pas bien encore à expliquer complètement, mais on peut penser que certaines personnes ont une vulnérabilité interne à la dépression et parfois sans aucune autre raison externe. C'est ça qui est assez troublant d'ailleurs pour ces personnes et leur entourage. On dit classiquement, elle a tout pour être heureuse, tout va bien dans sa vie, il ne devrait pas être déprimé. Et ben pour autant, on peut malgré tout être déprimé quand on n'a pas de problème de vie, mais c'est vrai que les problèmes de vie aggravent cette vulnérabilité le plus souvent.
Alors, question clé, c'est celle justement du diagnostic. On regrette souvent des diagnostics posés de façon tardive, une prise en charge retardée. Comment un psychiatre, comment un psychologue dit à son patient « vous êtes en dépression, vous êtes en train d'entrer en dépression, professeur Pellissolo ?»
Alors, le problème, souvent, c'est pas le psychiatre ou les psychologues qui sera en difficulté, parce que quand on arrive déjà au stade d'une consultation, c'est qu'on a déjà fait une démarche. Le plus compliqué, c'est pour accepter de consulter, et pour le généraliste, souvent, qui est en première ligne, de repérer les symptômes. Donc, on a maintenant des grilles de lecture qui sont quand même relativement, je dirais, concrètes et fiables. Et effectivement, ensuite, d'en parler au patient, lui poser des questions, et lui faire comprendre qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Ça prend du temps, en fait. Je pense que l'essentiel, et qui pose problème aujourd'hui dans certaines consultations, c'est que on n'a pas trop le temps, il faut aller vite. Et en plus de cette question de difficulté à se reconnaître soi-même en souffrance, qu'on appelle le déni, par exemple, et qui va retarder un petit peu les choses. Alors, c'est vraiment difficile pour des personnes qui ne sont pas suivies, qui n'ont pas de médecin traitant, par exemple, qui ne le connaissent pas de manière régulière, parce que le principal symptôme d'une dépression, c'est c'est le changement, en fait. Le fait qu'on ait quelqu'un d'autre, ou qu'on traverse une période vraiment de rupture par rapport à son état habituel. Le médecin qui connaît le patient depuis longtemps, son médecin traitant, il va être plus à l'aise pour dire, là, il y a un changement, il y a des choses anormales. Quand c'est la première fois, bon, c'est très compliqué, parce qu'on ne peut que s'appuyer sur les dires du patient, qui peut lui-même être un petit peu réticent, ou avoir du mal à lire ce qui lui arrive. Et donc, c'est là que ça nécessite parfois plusieurs rendez-vous, et ça peut être tout à fait pertinent de voir son médecin ou de voir ensuite un psychologue plusieurs fois avant de pouvoir vraiment déterminer le diagnostic.
Alors, avant de donner la parole aux auditeurs de Priorité Santé, j'ai une question un petit peu crue, mais je vais vous la poser quand même, parce que le mot n'a pas encore été prononcé, c'est celui de suicide. Est-ce que la plupart des dépressions impliquent un risque suicidaire ?
Alors, un risque suicidaire, oui, mais évidemment pas avec le même niveau. Donc, c'est évidemment ce qu'on a en tête tout le temps, ce qu'on a tous en tête, parce que c'est il y a des réalités dramatiques. Mais on a à peu près la moitié des personnes déprimées, je pense, qui ont des velléités suicidaires, plus ou moins fortes, plus ou moins pressantes. L'autre moitié, vraiment de manière schématique, mais l'autre moitié n'en a pas. Donc, ce n'est pas non plus systématique. Mais c'est un risque que l'on pèse un petit peu à tout moment.
Donc, professeur Antoine Pellissolo, vous restez avec nous. On va tout de suite donner la parole aux auditeurs de Priorité Santé. Des auditeurs que l'on retrouve tout de suite en ligne, avec tout d'abord la parole à Syra, qui est au Burkina Faso, dans la ville de... Oui, je vais vous laisser prononcer le nom de la ville. Attendez, je m'y reprends à deux fois. Waïgouya, j'ai réussi, c'est très bien. Et bonjour Syra, bonjour à vous.
Bonjour Caroline.
On vous écoute, Syra.
Bonjour docteur.
Bonjour.
J'ai fait une dépression depuis 2008. En ce moment, j'étais à l'université. Bon, oui. Je faisais droit deuxième année. Mais maintenant, depuis longtemps, bon, je n'arrive pas à réussir au concours. Je veux savoir si la dépression joue sur l'intelligence ou bien c'est... Je ne sais pas.
Syra, vous dites que vous souffrez de dépression depuis 2008. Quel suivi depuis cette date et quel traitement?
Je suis suivie par un psychiatre. J'étais à Ouaga. Bon, j'étais suivie par un psychiatre, une dame. Bon, elle me prescrivait des produits de l'aldol comprimé et du laroxyl. Et maintenant, après, mon oncle m'a transféré à Waïgouya dans ma ville, même natale. Maintenant, bon, je suis suivie par un psychiatre aussi. Tous les deux mois, je pars. C'était chaque mois, je partais.
Et la consultation, vous nous parlez de ces médicaments. La consultation, elle se passe aussi par un temps de parole. Vous racontez des choses, vous parlez de votre vie, de votre passé. Comment ça se passe?
Oui, ils m'ont posé des questions sur ce qui s'est passé dans ma vie. Ils m'ont posé plein de questions, en tout cas.
Et vous, quand vous racontez votre histoire, est-ce qu'il vous vient justement des choses qui peuvent expliquer cette dépression ou vous ne savez pas vous-même?
Oui, moi je sais. Bon, c'est dû... En 2008, en université, il y a eu trop de grèves. On a fait trop de grèves et on a suspendu nos bourses, les fonaires, et nous a chassés de l'université. Bon, j'étais sans logement. Bon, il y avait trop de problèmes. Donc... Bon, moi, je suis tombée malade. J'ai eu un palud grave et une fièvre typhoïde. Bon, j'étais hospitalisée. Après ça, bon, ils m'ont dit d'aller voir un psychiatre.
Syra, je vais donner la parole au professeur Antoine Pellissolo. D'abord, peut-être quelques mots sur le traitement que prend Syra. De quoi s'agit-il?
Alors, elle a cité deux médicaments. C'est difficile de faire, évidemment, de donner des détails, mais un médicament qui est un antidépresseur et l'autre qui est plutôt un antipsychotique, une autre famille de médicaments psychotropes. Donc, probablement que la dépression qu'elle a traversée est une dépression assez profonde et assez durable, qui se traite comme ça pendant plusieurs années. Alors, ça ne veut pas dire du tout qu'on ne récupère pas ses compétences et ses capacités. Ça peut être plus ou moins long. Dans les périodes de souffrance, effectivement, on se sent ralenti, on a du mal à regrouper toutes ces compétences psychiques. Mais normalement, normalement, on les retrouve. Donc, on peut tout à fait travailler, faire des études, même quand on a traversé des dépressions, à partir du moment où elle est stabilisée. On arrive à faire, à retrouver un équilibre. Alors, parfois, le traitement peut être en lui-même un frein quand il est trop sédatif, comme on dit, c'est-à-dire qu'il endort un petit peu pour calmer certaines angoisses. Donc, parfois, il faut faire des réglages avec le psychiatre qui va essayer d'adapter les doses et le choix des médicaments pour limiter ces effets secondaires, mais qui sont parfois utiles à la phase, en tout cas un peu aiguë de la maladie.
Avec cette question de Syrah, hein, qu'elle pose de cette façon, est-ce que la dépression joue sur mon intelligence? Qu'est-ce qu'on peut lui dire?
Alors, la dépression dans la phase vraiment très aiguë de la maladie, oui, ça ralentit. Ça ne change pas, évidemment, l'intelligence elle-même. Tout à fait. Le raisonnement, la personnalité n'est pas gravement modifiée. Par contre, on est plus fatigué, on a plus de mal à se concentrer, à se souvenir des choses. Donc, ça n'est pas un signe de gravité à long terme, parce qu'on va récupérer quand on va guérir de sa dépression. Mais sur le moment, c'est un frein. Ce qui fait qu'en gros, on conseille toujours dans ces cas-là de prendre soin de soi, de prendre le temps nécessaire, par exemple, pour se reposer et être aidé sur le plan psychique pour pouvoir passer cette phase. Mais encore une fois, il n'y a rien de définitif. Et à la fin de l'épisode, on retrouve normalement toutes ses capacités.
Syrah, est-ce qu'il y a des moments où vous vous sentez mieux, où vous avez l'impression justement que ce traitement a un bon effet sur vous, où vous vous sentez, par exemple, le matin, plutôt à l'aise quand vous vous levez?
Oui, bon, je me sens mieux depuis longtemps. Depuis que je suis revenue à la Guyane, je me sens mieux. Ça va. Mais maintenant, bon, le traitement aussi, ils ont changé le traitement. Maintenant, je fais une injection d'aldol décanoise et du chlorpromazine sur le magin. Avant, plus les aldol comprimés et l'aroxyde. J'ai changé le traitement. Bon, maintenant, je partais chaque mois, maintenant, c'est devenu tous les deux mois.
Et vous vous sentez mieux?
Oui, je me sens mieux.
Et vous allez retenter, justement, des examens à l'université? Vous allez retenter votre chance?
Non, moi, je suis en train de faire des concours seulement. Mmh. Je ne suis pas repartie à l'université.
Et ces concours, vous allez les passer, donc vous n'êtes pas découragée?
Non, je ne suis pas découragée.
Bon, ben écoutez, en tout cas, on vous souhaite meilleure chance et très bonne continuation, Syrah. Et bonne journée à vous au Burkina Faso. On va partir pour l'océan Indien, tout de suite pour l'île Maurice, retrouver Soredj. Bonjour Soredj.
Oui, bonjour Caroline.
On vous écoute.
Bonjour. Oui, donc je me présente, Soredj de l'île Maurice, et je remercie RFI aujourd'hui de me donner l'opportunité de m'exprimer.
On vous écoute.
Et, donc, moi, je voulais partager mon vécu et ma maladie. Et donc, moi, je suis tombé malade à un moment clé, donc c'est vers 18 ans, donc, au moment clé de l'adolescence. Et j'ai subi une grave dépression. Et au début, pour moi, c'était un phénomène d'incompréhension totale. Donc, j'étais replié sur moi-même, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et il n'y avait personne pour me comprendre, ni pour m'encadrer, que ce soit dans la famille ou au niveau des hôpitaux, même au niveau de mon lycée. Donc personne pour m'encadrer, j'étais replié sur moi-même. C'était un phénomène d'incompréhension.
Et cette période sombre, elle a duré combien de temps?
Allons dire après 6 mois, vu que mon état s'empirait vraiment et que je n'arrivais pas à m'exprimer, que j'étais replié sur moi-même. Donc, mes parents m'ont emmené consulter un psychiatre en ce moment. Donc, ils m'ont emmené à consulter un psychiatre et il m'a prescrit des antidépresseurs. Donc, à l'époque, c'était quelque chose qui coûtait assez cher. C'était dans les années 95 ou 96. Allons dire 96, oui. C'était un traitement qui coûtait très cher. Donc, il n'y avait pas de médicaments génériques. Il n'y avait que le Prozac et le Xanax. Et mes parents n'avaient pas aussi de moyens financiers pour payer ces médicaments. Et je dois aussi dire que j'ai raté une année scolaire, car je ne voulais pas retourner au lycée et je ne pouvais pas me concentrer sur les études. Donc c'était le début du traitement, c'était un traitement assez sédatif, je me sentais ensommeillé, tout le temps fatigué. Et j'ai raté une année d'études. Mais par la suite, je me suis senti bien. À un moment, donc, lorsque les médicaments ont ajusté sur moi, sur mon mental, donc j'ai pu retourner au lycée et compléter mon bac. Et donc, j'ai pu compléter le bac aussi. Et vu à l'époque, le traitement coûtait cher, mes parents, je ne pouvais pas compter sur mes parents pour continuer mon traitement.
À partir de quel moment vous avez senti un rebond, Soraj? Et vous parlez justement de ce traitement. Est-ce qu'il y avait à côté des thérapies un recours à des praticiens autres que, par exemple, un psychiatre?
Non, il n'y avait que le psychiatre. Donc, c'était un psychiatre qu'on payait, dans le domaine privé. Mais les hôpitaux publics, donc il n'y avait pas de suivi au niveau des hôpitaux publics. Au service public, donc il n'y avait pas de psychanalyse. Donc, on ne prescrivait que les médicaments. Il n'y avait pas de suivi. En fait, il y a un peu ce mélange et aussi ce tabou, donc de confondre folie et dépression. Et à l'époque, moi-même, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et j'étais esselé, et même les médecins de l'hôpital ne comprenaient pas. Donc ils disaient que j'étais fou. Et ils me prescrivaient des médicaments, c'est dit tout. Il n'y avait pas de psychanalyse, il n'y avait pas donc de suivi, il n'y avait pas d'encadrement.
Aujourd'hui, avec le recul, Soraj, vous considérez que c'est quoi qui vous a permis de vous en sortir? C'est ces médicaments sur le long terme? C'est l'appui de votre entourage? C'est quoi précisément?
Après mon bac, j'ai pas pu continuer mes études universitaires, donc faute de moyens aussi. Et vu que je n'avais pas de traitement, je n'avais pas accès aux médicaments. Mais c'était dans les années 98. L'année 98, j'ai pu trouver un travail. J'ai pu trouver un travail qui m'a donné une indépendance financière. Et à partir de là, donc c'était un boost que j'ai eu, et de trouver une indépendance financière, donc d'avoir des sous. À ce moment, je pourrais m'adonner à mes passions, au voyage. J'ai pu m'acheter des choses qui me plaisaient. Par exemple, j'ai pu m'acheter une vieille voiture et je découvrais des nouveaux environnements. Je sortais de ce carcan, de ce cercle vicieux.
Et avec ce passé dépressif, vous avez pu fonder une famille, vous avez pu avancer dans votre vie privée.
Oui, allons dire dans les années 2000, j'ai pu faire la rencontre d'une fille qui est aujourd'hui mon épouse. Et avec elle, j'ai eu deux enfants. Et donc, c'était quelque chose de vraiment formidable. Et mon mariage, la rencontre de ma femme, qui est vraiment extraordinaire, qui m'a soutenu tout au long de ma vie. Et aussi l'épanouissement de voir mes enfants grandir, de s'exprimer, de rire, de jouer. Ils dégagent une énergie, une joie formidable. Donc, c'est ça un peu l'encadrement familial. Et c'était vraiment extraordinaire, l'encadrement familial, mais conjugué aussi aux médicaments. Okay. Et moi, je dirais aujourd'hui que le traitement médical, pour moi, c'est mon expérience, le traitement médical ne suffit pas pour sortir de la dépression. C'est aussi donc l'encadrement, ça a donné à ses passions. Pour ce moment, j'ai plusieurs passions. J'ai la passion de la mécanique, des chiens, de la musique. Donc j'ai pu assouvir mes passions. Et le travail aussi, cela permet donc d'oublier, de sortir de ce carcan, le voyage aussi.
Soraj, j'ai une dernière question. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que vous êtes guéri?
Il y a des séquelles. Quelquefois, j'ai des séquelles. Il y a des jours où je me sens moins bien. Je me sens fatigué, épuisé. Il y a des jours où je me sens très bien. Il y a des séquelles. Mais auprès, j'ai pu, avec le recul, j'ai pu voir aujourd'hui, j'ai 44 ans, j'ai accompli beaucoup de choses en dépit de ma maladie. J'ai pu accomplir beaucoup de choses aujourd'hui, ma maison, j'ai deux enfants, je suis marié. Et il faut que je mette tout à l'arrière, comme m'a conseillé mon médecin, et de regarder devant, ne pas regarder à l'arrière, mais avoir un focus. Donc,
C'est le message qu'on retient, Soraj, en tout cas. Et je pense que les auditeurs aussi, voir qu'on a été malade et que, avec justement cet encadrement familial, aussi cette implication sociale, hein, professeur Antoine Pellissolo, et l'appui du corps médical, eh bien, il y a vraiment un espoir.
Oh ben, bien, heureusement, bien sûr. Le chemin est assez long. C'est vrai qu'il faut passer par des étapes qui sont d'abord de sortir de la phase dépressive, puis ensuite de reconstruire un certain nombre de choses. Mais si possible, en étant accompagné, on y arrive dans la majorité des cas. Alors c'est vrai que parfois ça nécessite des soins, ça nécessite des médicaments dans les formes graves. Mais tout ça, en plus, probablement apporte quelque chose sur soi-même. On arrive très souvent après une dépression à mieux se connaître. Et parfois certains disent que bon, c'est un mal pour un bien, c'est-à-dire qu'ils ont pu enrichir leur connaissance d'eux-mêmes et des autres, à condition vraiment de ne pas se replier sur soi. Et c'est ça le plus compliqué, parce que quand on va mal, c'est ce que disait très bien Sorège, on a tendance à se replier sur soi, et alors qu'on a besoin des autres. Et il faut que les autres soient un petit peu disponibles, ou alors on s'appuie, alors il l'a très bien décrit aussi, sur ce qu'il appelait des passions. Moi je trouve que c'est très bien de rappeler ça, parce que parfois il faut relancer sa propre motivation sur des choses qui sont au départ un petit peu enfouies en soi. Donc ça peut être un sport, ça peut être une passion sur une activité culturelle ou autre. Et c'est parfois là-dessus qu'on arrive à rebondir.
Alors avant de prendre Barry en ligne, hein, qui sera tout à l'heure en ligne de Guinée, je voulais juste informer nos auditeurs que nous n'aurons pas le docteur Mukwege à la fin de cette émission pour une raison très simple, c'est qu'il est en train d'opérer une opération chirurgicale donc ce matin à la clinique de Bukavu, mais on vous donne rendez-vous demain. On remet ça à demain. Demain, nous serons en ligne du Kivu, de Bukavu, avec le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix. Bien évidemment, l'opération, ça passe avant un contact téléphonique et tous les auditeurs le comprendront bien. Nous sommes tout de suite en ligne avec Barry, qui nous appelle de Guinée. Bonjour Barry.
Bonjour la RFI.
On vous écoute Barry.
Oui, avant de poser ma question, j'ai un petit rappel. Alors, dans mon village, il y a une femme qui s'est mariée à deux personnes. Avec le premier mari, elle a eu trois garçons, dont deux a eu une dépression. Mm-hmm. Après la mort de ce dernier, elle s'est remariée. Elle a eu quatre fils, dont une avait une dépression encore. Mm-hmm. Ma question est de savoir, est-ce qu'on peut dire la dépression peut être un héritage encore?
Héritage familial, une hérédité en fait dans cette maladie. Qu'est-ce que vous répondez, professeur Antoine Pellissolo, à cette question de Barry?
C'est une question importante qu'on se pose souvent. Alors, si on ne fait que raconter cette histoire, on peut se dire qu'il y a quelque chose qui se passe effectivement dans cette famille. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce que c'est l'héritage génétique? Effectivement, c'est une des explications possibles, la génétique. Ou est-ce que c'est le mode de vie? Est-ce que c'est l'environnement? Toutes ces questions-là sont assez complexes. Et puis par ailleurs, quand on parle de dépression, sans avoir le détail, ça peut être autre chose que seulement de la dépression. Il y a des maladies dont on sait qu'elles sont un peu plus déterminé par des facteurs génétiques comme le trouble bipolaire qui peut s'exprimer aussi par de la dépression. Donc c'est difficile de démêler tout ça. Mais en effet, on a de plus en plus l'idée que certains facteurs familiaux peuvent être importants, sans pouvoir dire exactement est-ce que c'est la biologie, donc ce qu'on a en soi dans son patrimoine génétique, ou est-ce que c'est aussi l'environnement, le mode de vie, ce qu'on transmet à ses enfants autrement que par les gènes. Alors, les deux sont importants, je dirais, et les deux poussent à faire attention aux enfants quand les parents sont eux-mêmes fragiles, et peut-être essayer d'intervenir quand on le peut auprès de la famille assez vite, notamment auprès des enfants.
Voilà pour cette réponse, Barry. Très bonne journée à vous en Guinée. Une dernière question, elle est posée sur Facebook par Karine qui habite à Dakar. Je vais vous lire justement ce message. J'ai peur de tout, de sortir de chez moi. J'ai peur d'être une mauvaise mère, une mauvaise épouse, une mauvaise amie. J'ai peur de la mort. Il y a des moments insupportables. Et elle pense même au suicide. Karine, le suicide semble devenir l'option ultime pour alléger ceux qui nous entourent. Cette peur est une peur aussi. Peur de prendre des médicaments, c'est ce qu'elle dit. Aujourd'hui, j'ai un enfant, j'ai peur de lui passer cette charge émotionnelle. Comment est-ce que je peux faire sans passer par les médicaments? Car je connais un peu leur effet. Justement, j'avais cette question qui peut paraître un petit peu naïve, mais j'ai pas peur d'être naïve, professeur Antoine Pellissolo. Comment se fait-il que l'on puisse aborder ouvertement la question du suicide tout en ayant peur de prendre des médicaments? Il y a comme un grand écart entre les deux.
Bien sûr, mais c'est les grands écarts qu'on a dans notre esprit et je dirais des paradoxes parfois de l'esprit humain, surtout quand il souffre. Alors là, ce que décrit surtout Karine, c'est des éléments d'angoisse très fort, qui peuvent être liés à une dépression, que certaines personnes ont par ailleurs en dehors de la dépression, de ce qu'on appelle appelle les troubles anxieux. Donc il faudrait déjà peut-être essayer de faire le diagnostic de cette forme d'anxiété. Et quand c'est vraiment lié à une dépression aiguë, avec les idées noires qui vont avec, avec les idées suicidaires qui vont avec, et on sait avec possiblement un risque réel de suicide, c'est vraiment essentiel de se confier à quelqu'un, de consulter un professionnel, si besoin de passer par un intermédiaire, quelqu'un de proche qui va vous aider à la démarche, parce que il faut à tout prix sortir de cette situation-là. Les médicaments peuvent être des solutions, mais encore une fois, ce n'est pas la seule solution. Donc il faut pas forcément se fixer que là-dessus, parce qu'effectivement, on a des représentations, des peurs autour des médicaments. Le médecin va vous expliquer qu'est-ce qui peut vous apporter, et il y a d'autres traitements aussi qui peuvent être mis en œuvre.
Alors Karine, si vous nous écoutez après ce message Facebook, allez consulter, allez voir quelqu'un, un médecin, un psychiatre, c'est très important pour vous et aussi pour votre famille, puisque vous l'avez dit, vous avez un enfant. Justement, vous disiez les médicaments, ce n'est pas systématique. En tout cas, une prise en charge est nécessaire. Quelle forme peut-elle prendre, professeur Antoine Pellissolo, cette prise en charge ?
Alors aujourd'hui, on sait qu'il y a deux phases. Il y a une phase d'aide, de soutien, de support qui est avant tout psychologique, on peut dire, au moment de la phase dépressive. Alors ça peut nécessiter un accompagnement psychologique et éventuellement une aide médicamenteuse. Tout ça peut être coordonné par le médecin traitant qui peut faire soit l'ensemble de la prise en charge, soit orienter en partie vers un soutien psychologique. Et puis le deuxième temps, lorsqu'on a sorti, je dirais, la tête hors de l'eau, quand on a repris, je dirais, ses capacités, il va falloir travailler sur l'explication de tout ça, sur le sens qu'on peut donner à cet épisode, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Et donc ça, c'est plutôt ce qu'on appelle des psychothérapies qui vont servir ensuite à consolider le traitement et à mieux se défendre contre des rechutes éventuelles. Malheureusement, une dépression, ça peut revenir. Donc, en profiter pour travailler sur les fondements de cette souffrance. Et là, il y a beaucoup de méthodes différentes, des méthodes très, je dirais, concrètes, où on va travailler sur ses émotions, sur les événements du passé, ou des méthodes plus verbales qui sont plus proches de la psychothérapie classique. En tout cas, ça s'adapte à la personne et on a des traitements, je dirais, personnalisés pour faciliter le parcours de la personne qui peut tout à fait revenir elle-même après un passage difficile.
Professeur Antoine Pellissolo, on va tout de suite prendre la direction de Douala au Cameroun.
Priorité santé sur RFI.
Excuse. Professeur Pellissolo, donc comme promis, on part pour Douala retrouver le docteur Christian Ayoum. Docteur Ayoum, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, chef du service de psychiatrie de l'hôpital La Quintini de Douala. Première question, sur les chiffres de la dépression dans votre pays, est-ce que vous disposez de données à ce sujet ?
Alors, c'est la réponse qu'on donne habituellement et c'est la même tout le temps, celle du fait que les études à grande échelle ne sont pas faites tout le temps au Cameroun. Donc, pour le cas de la dépression, justement, nous n'avons pas de chiffres au niveau national complet, mais disons que dans nos consultations, à l'hôpital où nous avons à peu près 4 à 5 000 patients consultants en psychiatrie chaque année, le tiers des patients à peu près viendra pour une problématique en lien avec la dépression.
Et oui. Justement, ces personnes qui viennent en consultation, est-ce qu'elles ont conscience d'être en dépression ou est-ce qu'elles viennent consulter pour d'autres motifs, par exemple l'insomnie ?
Oui, l'insomnie c'est un gros motif qui revient partout d'ailleurs, qui revient même dans les psychoses et globalement dans l'autre forme qui est le trouble bipolaire. C'est aussi, vous savez, ce qu'on appelle les troubles de somatisation. Donc, ces gens-là qui viennent avec des douleurs qui n'en sont pas de vraies, ces gens qui viennent avec manque d'appétit, douleurs par-ci, sensations de vertige et autres choses qui, a priori, les font d'abord à la base consulter chez le médecin généraliste avant qu'elles nous arrivent. Et il y a, il faut le dire quand même, un bon pourcentage d'entre elles qui viennent parce qu'il y a des idées de tristesse, des idées noires, des idées même parfois suicidaires, qui malheureusement ne sont pas souvent verbalisées parce que montrant parfois quand on a une certaine position dans la famille, qu'on est faible, ou alors conduisant un peu à être la risée du quartier, quand on est très engagé sur le plan religieux et que finalement de dire que qu'on voulait arrêter de vivre sa souffrance. Donc on veut arrêter de vivre, qu'on veut se suicider, ça peut faire honte.
Justement, est-ce qu'il y a encore une dimension taboue de la dépression au Cameroun, docteur Ayoum?
Oui, nécessairement, surtout quand vous allez sur le pan de la dépression, je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que, je veux dire du suicide, vous savez, quand vous allez, quand vous parlez de suicide, très souvent ici, on baigne quand même dans une grande culture bantou qui a ses tenants, et puis les questions judéo-chrétiennes nous ont ajouté l'idée que finalement, ben, quand on va dire qu'on veut arrêter de vivre, quand on veut se suicider, on est très mal vu. Donc, effectivement, quand on est le chef de famille, il faut l'imaginer, d'une famille dans un milieu où c'est essentiellement des familles à fonctionnement groupal un peu, ben, on trouve du mal à dire à ses enfants, pour dire comme ça, qu'on est mal et qu'on veut arrêter de vivre. Donc, effectivement, il y a des petits angles tabous encore à travailler, effectivement.
Et quelle prise en charge est-ce que vous proposez à ces patients, docteur Christian Ayoum?
D'abord, la prise en charge médicamenteuse, c'est la base, c'est de les accueillir. Et puis, on essaye de monter quelque chose qui tourne autour de psychothérapie, comme le disait le professeur tout à l'heure. Mais avouons que nous sommes moins équipés que les services occidentaux. Donc, les psychothérapies sont surtout faites dans les structures privées, parce que les psychologues, on n'en a pas encore beaucoup dans la fonction publique. Et on essaie d'apporter un petit appui. On bénéficie quand même encore du fait que ici les familles sont encore liées à leurs patients, même si le délitement des familles, c'est quelque chose que nous vivons et que nous voyons arriver à grands pas. Vous savez, on s'occidentalise rapidement et les gens sont de plus en plus occupés. Les distances à parcourir pour aller au travail sont de plus en plus longues. Donc on a de moins en moins de ce qu'on appelait les gardes malades. Donc les accompagnants, les aidants naturels sont de moins en moins présents. Donc c'est une démarche pour nous qui est biopsychosociale.
Du côté de la prise en charge, comment font les patients, docteur Christian Ayoum? Est-ce qu'ils arrivent à faire face à ces frais?
Ça coûte cher. Il faut avouer que à l'hôpital public, la consultation coûte approximativement, disons, 3-4 euros, donc 2300 francs CFA. Relativement, c'est pas très cher ici, il faut le dire, mais en termes de médicaments, surtout, on a quelques difficultés, parce que quand on va au-delà des premières générations qu'on citait tout à l'heure, l'amitriptyline, la clomipramine et les autres, ben on passe aux inhibiteurs de la recapture qui sont quand même des médicaments un peu au-dessus, je ne vais pas les citer ici, mais qui vont vous coûter, une bonne vingtaine d'euros pour 2 à 3 semaines de traitement. Et il faut avouer que
c'est un sacré budget.
C'est relatif. Oui, voilà. C'est... Et en plus, après, quand il faut faire des consultations de psychothérapie en cabinet privé, vous comprenez que pour que le cabinet marche, ben, les psychologues ils vont avoir les prix adaptés. Et ça, pour des gens qui ne sont pas tout le temps nantis, c'est un peu difficile à gérer. Oui.
Merci beaucoup, docteur Christian Ayoum. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes psychiatre, chef du service de psychiatrie de l'hôpital La Quintini de Douala, au Cameroun.
RFI à Douala. 97.8 FM.
On vous retrouve, professeur Antoine Pellissolo. On a parlé des traitements, des médicaments. Une notion importante, c'est que ce sont souvent des traitements sur la durée.
Oui, alors c'est vraiment un élément central, parce que très souvent des erreurs sont faites. Un traitement pour une dépression, c'est au moins 6 mois, on dit au minimum, et même assez fréquemment jusqu'à 1 an de traitement antidépresseur. Donc ce sont des médicaments particuliers, à ne pas confondre avec les anxiolytiques, les somnifères ou les neuroleptiques par exemple. Une dépression ne nécessite a priori que un traitement antidépresseur, en tout cas sur le long terme, et avec l'avantage de ne pas déclencher de dépendance, de ne pas poser des problèmes quand on décide de les arrêter avec son médecin. Donc ce sont des traitements de long terme, mais qui s'adaptent bien à la vie quotidienne ensuite, parce qu'on peut s'arranger pour qu'il n'y ait pas d'effets secondaires et que ça ne génère pas des problèmes supplémentaires.
Avec un arrêt souvent par palier.
Alors on fait un arrêt par palier progressivement pour surveiller un peu ce qui se passe et pour que l'arrêt se passe bien, mais très souvent c'est le cas, avec toujours un accompagnement médical. Il faut surtout l'accompagnement au début du traitement pour le choisir et l'adapter, et puis à la fin quand on décide de l'arrêter, parce que d'habitude on sait qu'on a en gros réglé à petit peu près le problème de l'épisode dépressif, mais c'est une période un petit peu à surveiller de près, donc avec un accompagnement un petit peu renforcé.
Alors professeur Pellissolo, dans votre livre « Dépression, s'enfermer ou s'en sortir », vous écrivez « La meilleure attitude à adopter se situe entre une stimulation excessive agressive du type « bouge-toi » et hyperprotection infantilisante. Là, on parle du rôle de l'entourage, justement. Est-ce qu'il y a des phrases à ne pas dire quand on a un ami, un mari, un enfant dépressif? Éviter justement ce fameux « allez, bouge-toi un petit peu ».
C'est essentiel, hein, parce que la personne déprimée déjà se dévalorise. Par définition, elle se sent incapable, elle se sent coupable parfois, alors plus ou moins selon les cas évidemment, mais entendre ça par ses proches qui sont normalement les appuis principaux, ça peut être assez délétère. Alors les proches, les conjoints, les enfants, les parents sont toujours démunis, en tout cas peuvent être un peu perplexes, et c'est pour ça que le conseil qu'on peut donner, c'est aussi autant que nécessaire, par exemple, accompagner la personne chez le médecin qui va pouvoir donner des informations. Parce que l'essentiel, c'est d'être présent. La personne déprimée a besoin d'un soutien affectif probablement un peu renforcé. En tout cas, si elle le souhaite, hein, il ne faut pas forcer non plus. Mais il faut éviter cette erreur de vouloir pousser trop vite la personne ou de la laisser un peu seule face à ses difficultés en disant bah, « j'y peux rien, j'y comprends rien ». C'est un ajustement qui n'est pas toujours simple.
Justement, il y a une auditrice du Burkina, Inès, qui témoigne. Elle dit « j'ai été dépressive, je suis sous traitement, on peut s'en sortir. Je viens de passer un concours assez important. Mon mari, ma famille m'ont beaucoup aidée, mais en même temps, elle regrette hein, des fois que le psychiatre n'ait pas suffisamment de temps pour la recevoir. C'est vrai que ce moment de parole prolongé, c'est quelque chose d'important. Et puis, on a une autre auditrice, là, c'est Victorine à Brazzaville. Elle dit « je suis passée par une phase de dépression. Parfois, on a besoin de se replier sur soi pour trouver la force de s'en sortir. J'ai eu besoin de toucher le fond pour pouvoir me relever. » Est-ce que c'est vrai? Parfois, certains des patients vous disent « là, vraiment, je suis au plus bas et maintenant, je sens que vraiment, je vais pouvoir remonter à la surface. »
Oui, alors ça, c'est le cas sûrement pour des, je dirais, des problématiques de vie qui sont pas forcément des dépressions maladies, je dirais, des maladies dépressives. C'est plutôt l'adaptation, je dirais, à certains parcours de vie difficiles. Quand on est dans une dépression et quand on est, je dirais, au plus profond de la dépression, cette énergie-là, ce rebond-là, on n'a pas souvent les moyens de le trouver. Donc c'est là que vraiment il faut s'ouvrir un petit peu aux autres. Alors elle dit bien, je pense que Victorine, elle dit bien que par moments, elle a eu le besoin de se retrouver un peu seule, ce qui peut se comprendre, encore une fois, dans certains parcours de vie, mais il ne faut pas hésiter à tendre la main et à peut-être faire confiance à des proches qui vont être, dans ce cas-là, un relais pour, par exemple, se rapprocher de soins qu'on aurait tendance à négliger ou même à ne pas croire possible.
S'appuyer vraiment sur son entourage. Et pour conclure, professeur Pellissolo, j'aimerais que vous nous parliez d'une étude européenne à laquelle votre équipe de recherche participe ou collabore. Elle s'appuie sur une méthode de thérapie comportementale assistée par Internet. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, ce sont effectivement des recherches qui sont maintenant bien abouties. Des recherches alors à l'échelon européen, là, parce que ça permet de comparer un petit peu les différentes populations. Mais en fait, dans les différentes psychothérapies qui existent contre la dépression, les thérapies comportementales et cognitives ont vraiment fait leur preuve, à la fois pour sortir de la phase dépressive quand elle n'est pas trop sévère, je dirais, éventuellement même sans médicaments, et puis surtout pour ensuite avoir des outils de défense contre des rechutes. Et l'intérêt, c'est qu'évidemment, on travaille en profondeur sur certaines dimensions psychologiques, mais la contrepartie, que d'ailleurs certains auditeurs ont déjà signalé, c'est que ça demande du temps, que ça demande aussi un petit peu d'argent, ou plus ou moins d'argent selon les cas. Et donc l'intérêt de cette étude, c'est d'associer des séances qui sont des séances un peu automatisées sur ordinateur, avec un logiciel, avec des programmes qui ont été travaillés par des professionnels pour, je dirais, compléter les consultations. En gros, dans ce programme-là, on remplaçait une séance de psychothérapie sur deux par une séance sur ordinateur, mais qui va complètement s'intégrer à la psychothérapie. C'est pas quelque chose qui est complètement désincarné juste avec l'ordinateur. Il y a quand même quelqu'un qui vous accompagne.
Merci beaucoup, professeur Antoine Pellissolo, pour votre participation. Je rappelle que vous êtes professeur de psychiatrie, chef de service à l'hôpital Henri Mondor à Créteil.
RFI à Barcelone, 105.3 FM.
En effet, on prend la direction de la capitale catalane, en Espagne, pour retrouver le professeur Marion Leboyer. Bonjour, professeur.
Bonjour.
Vous êtes responsable du pôle psychiatrie addictologie des hôpitaux universitaires Henri Mondor. Hein, vous connaissez bien notre invité en plateau, le professeur Pellissolo. Et vous avez reçu hier à Barcelone le 41e prix de neuropsychopharmacologie remis par le Collège européen de neuropsychopharmacologie. Première femme à recevoir ce prix. 41e édition. Est-ce que ça veut dire, professeur Le Boyer, qu'à ce niveau de connaissances, de compétences, les femmes chercheurs, les femmes médecins, psychiatres sont relativement rares?
Alors, on vient de faire une réunion, donc vous êtes tout à fait dans l'actualité, pour construire un collège au sein de cet énorme réseau de psychiatres européens que représente le congrès que vous venez de citer, pour soutenir le fait que des femmes accèdent plus à des positions de décision, de coordination et de responsabilité.
Alors,
donc c'est pas chose faite.
C'est pas encore, il y a encore du chemin à faire. Alors, si vous le voulez bien, première femme donc lauréate, j'aimerais qu'on parle de votre domaine de recherche, en tout cas, dans votre travail, ce qui hier a été récompensé à Barcelone. C'est quoi précisément? Je cite « facteurs de risque génétiques et environnementaux dans les troubles psychiatriques majeurs ». Justement, tout à l'heure, un des auditeurs posait la question sur cette fameuse hérédité de certaines maladies mentales.
Alors, ce qui a été récompensé hier, c'est un parcours de quelques dizaines d'années. Hein. C'est l'ensemble de ce que nous avons fait au sein de notre équipe à Henri Mondor en recherche et qui aboutit à ce qu'on appelle la médecine de précision en psychiatrie. Et c'est sur ça que portait la conférence que j'ai faite hier. Qu'est-ce que c'est la médecine de précision en psychiatrie? C'est l'idée que, comme en cancérologie ou pour les maladies cardiovasculaires, on va être capable, dans un futur qui est assez proche, d'identifier des formes cliniques homogène de maladies à qui on va proposer des traitements spécifiques qui reposent sur des mécanismes. Aujourd'hui, quand on traite la dépression, comme Antoine Pellissolo vient de vous le dire, on a des stratégies thérapeutiques qui concernent le groupe entier de dépression. Et on sait très bien que c'est des pathologies très hétérogènes. Demain, on espère avoir des biomarqueurs, des signatures biologiques et cliniques qui vont permettre de mieux comprendre l'hétérogénéité de ces pathologies et donc d'avoir des stratégies thérapeutiques beaucoup plus ciblées et beaucoup plus précises.
Quand vous dites biomarqueurs, ces signes, pour le grand public, on les retrouve dans quel type d'analyse, dans quelle structure, dans quel matériau?
Alors, on a toute une série de biomarqueurs qui peuvent être sanguins, donc qui se mesurent avec une simple prise de sang. Donc, ça peut être des facteurs génétiques dont vous venez de parler. Ça peut aussi être des facteurs inflammatoires. On a aussi accès à l'imagerie cérébrale parce qu'aujourd'hui, il y a toute une série de marqueurs qui peuvent être identifiés avec l'imagerie cérébrale. Et puis, le troisième outil, c'est également tout ce qui va être construit à partir des données qu'on appelle l'évaluation qui peut se faire à partir de son téléphone sur des biomarqueurs qui sont comportementaux, par exemple combien de pas on a fait dans la journée ou comment est-ce qu'on a dormi la nuit. Et puis il y a aussi toute la clinique qui est extrêmement importante pour construire ces signatures et identifier ces sous-groupes qui sont à la fois les symptômes cliniques, psychiatriques, mais aussi les symptômes de maladies physiques, somatiques, qui sont très souvent associés à ces pathologies, et puis tout ce qui est issu des tests neuropsychologiques et cognitifs. Donc c'est un ensemble de données très composites auxquelles aujourd'hui on sait qu'on peut avoir accès pour caractériser plus finement les pathologies dont souffrent nos patients, pour arriver à démembrer l'hétérogénéité qui est quand même un frein au progrès en psychiatrie.
Merci beaucoup, professeur Marion Le Boyer, d'avoir été en direct avec nous de Barcelone, d'avoir répondu à nos questions. J'ajoute que vous avez coécrit avec le professeur Pierre-Michel Lorca le livre intitulé « Psychiatrie, l'état d'urgence », publié aux éditions Fayard. Eh bien, mercredi dans Priorité Santé, nous retrouverons justement en studio, en direct, le professeur Lorca pour évoquer cette crise de la psychiatrie en France et surtout l'analyse que vous faites ensemble de la situation, des pistes très étayées, très argumentées que vous avez rassemblées dans ce livre pour, au-delà du constat, faire des propositions pour sortir de cette crise psychiatrique en France. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. C'est Oussama Kéofeï Lassène, Victor Hull aujourd'hui. Demain, nous allons parler de l'automédication. Se soigner sans consulter, à quel risque? Si vous voulez témoigner ou poser une question, on attend vos appels. Notre numéro 33 84 22 75 75.
C'est Priorité Santé avec Sunwa Assurance qui vous propose l'assurance habitation pour protéger vos biens, vos proches et votre voisinage. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.